un Normand, à Paul Alexis. Nous venions de sortir de Rouen et nous suivions au grand trot la route de Jumièges. La légère voiture filait, traversant les prairies, puis le cheval se mit au pas pour monter la côte de Canteleu. C'est là un des horizons les plus magnifiques qui soit au monde. Derrière nous, Rouen, la ville aux églises, aux clochers gothiques, travaillés comme des bibelots d'ivoire. En face, Saint-Sever, le faubourg aux manufactures, qui dresse ses 1000 cheminées fumantes sur le grand ciel vis-à-vis des 1000 clochetons sacrés de la vieille cité. Ici, la flèche de la cathédrale, le plus haut sommet des monuments humains. Et là-bas, la pompe à feu de la foudre, sa rivale, presque aussi démesurée, et qui passe d'un mètre, la plus géante des pyramides d'Égypte. Devant nous, la scène se déroulait, ondulante, semée d'îles, bordée à droite de blanches falaises que couronnait une forêt, à gauche de prairies immenses qu'une autre forêt limitait, là-bas, tout là-bas. De place en place, de grands navires à l'ancre, le long des berges du large fleuve. Trois énormes vapeurs s'en allaient, à la queue leu, vers le Havre. Et un chapelet de bâtiments formé d'un trois-mâts, de deux goélettes et d'un brick, remontait vers Rouen, traîné par un petit remorqueur vomissant un nuage de fumée noire. Mon compagnon, né dans le pays, ne regardait même point ce surprenant paysage. Mais il souriait sans cesse. Il semblait rire en lui-même. Tout à coup, il éclata. « Ah, vous allez voir quelque chose de drôle. La chapelle au père Mathieu. Ça, c'est du nanan, mon bon. » Je le regardai d'un œil étonné. Il reprit. « Je vais vous faire sentir un fumet de Normandie qui vous restera dans le nez. Le père Mathieu est le plus beau Normand de la province, et sa chapelle, une des merveilles du monde, ni plus ni moins. Je vais vous donner d'abord quelques mots d'explication. Le père Mathieu, qu'on appelle aussi le père Laboisson, est un ancien sergent-major revenu dans son pays natal. Il unit en des proportions admirables, pour faire un ensemble parfait, la blague du vieux soldat à la malice finaude du Normand. De retour au pays, il est devenu, grâce à des protections multiples et à des habiletés invraisemblables, gardien d'une chapelle miraculeuse, une chapelle protégée par la Vierge et fréquentée principalement par les filles enceintes. Il a baptisé sa statue merveilleuse Notre-Dame du Gros-Ventre, et il la traite avec une certaine familiarité goguenarde qui n'exclut point le respect. Il a composé lui-même et fait imprimer une prière spéciale pour sa bonne Vierge. Cette prière est aussi un chef-d'œuvre d'ironie involontaire, d'esprit normand, où la raillerie se mêle à la peur du saint, à la peur superstitieuse de l'influence secrète de quelque chose. Il ne croit pas beaucoup à sa patronne. Cependant, il y croit un peu, par prudence, et il l'aménage, par politique. Voici le début de cette étonnante oraison. Notre bonne Madame la Vierge Marie, patronne naturelle des filles mères en ce pays et par toute la terre, protégez votre servante qui a fauté dans un moment d'oubli. Cette supplique se termine ainsi. Ne m'oubliez pas surtout auprès de votre saint époux et intercédez auprès de Dieu le Père pour qu'il m'accorde un bon mari semblable au vôtre. Cette prière, interdite par le clergé de la contrée, est vendue par lui sous le manteau et passe pour salutaire à celle qui la récite avec onction. En somme, il parle de la Bonne Vierge, comme faisait de son maître le valet de chambre d'un prince redouté, confident de tous les petits secrets intimes. Il sait sur son compte une foule d'histoires amusantes qu'il dit tout bas, entre amis, après boire. Mais vous verrez par vous-même. Comme les revenus fournis par la patronne ne lui semblaient point suffisants, il a annexé à la Vierge principale un petit commerce de saints. Il les tient tous, ou presque tous. La place manquant dans la chapelle, il les a emmagasinés au bûcher, d'où il les sort sitôt qu'un fidèle les demande. Il a façonné lui-même ses statuettes de bois, invraisemblablement comiques, et les a peintes tout en vert, à pleine couleur, une année qu'on badigeonnait sa maison. Vous savez que les saints guérissent les maladies, mais chacun a sa spécialité, et il ne faut pas commettre de confusion ni d'erreur. Ils sont jaloux les uns des autres, comme des cabotins. Pour ne pas se tromper, les vieilles bonnes femmes viennent consulter Mathieu. Pour les maux d'oreille, K5 est le meilleur. Mais il y a Saint-Osyme qui est bon. Il y a aussi Saint-Pamphile qui est pas mauvais. Ce n'est pas tout. Comme Mathieu a du temps de reste, il boit. Mais il boit en artiste, en convaincu, si bien qu'il est gris régulièrement tous les soirs. Il est gris, mais il le sait. Il le sait si bien qu'il note chaque jour le degré exact de son ivresse. C'est là sa principale occupation. La chapelle ne vient qu'après. Et il a inventé, écoutez bien et cramponnez-vous, il a inventé le soulomètre. L'instrument n'existe pas, mais les observations de Mathieu sont aussi précieuses que celles d'un mathématicien. Vous l'entendez dire sans cesse. Depuis lundi, j'ai passé 45. Ou bien, j'étais entre 52 et 58. Ou bien, j'en avais bien 66 à 70. Ou bien, cré coquin, je me croyais dans les 50. V'là que je m'aperçois que j'étais dans les 75. Jamais il ne se trompe. Il affirme n'avoir pas atteint le mètre. Mais comme il avoue que ses observations cessent d'être précises quand il a passé 90, on ne peut se fier absolument à son affirmation. Quand Mathieu reconnaît avoir passé 90, soyez tranquille, il était crânement. Dans ces occasions-là, sa femme, Mélie, une autre merveille, se met en des colères folles. Elle l'attend sur sa porte quand il rentre et elle hurle. « Te voilà, salaud, cochon, bougre d'ivrogne !» Alors Mathieu, qui ne rit plus, se campe en face d'elle et d'un ton sévère. « Tais-toi, Mélie, c'est pas le moment de causer. Attends à demain. » Si elle continue à vociférer, il s'approche et la voit tremblante. « Gueule plus, je suis dans les 90. Je ne me mesure plus. Je vais cogner. Prends garde. » Alors Mélie bat en retraite. Si elle veut le lendemain revenir sur ce sujet, il lui rit au nez et répond. « Allons, allons, assez causé. C'est passé. Tant que j'aurai pas atteint le mètre, il n'y a pas de mal. Mais si je passe le mètre, je te permets de me corriger, ma parole. » Nous avions gagné le sommet de la côte. La route s'enfonçait dans l'admirable forêt de Roumar. L'automne merveilleux mêlait son or et sa pourpre aux dernières verdures restées vives, comme si des gouttes de soleil fondu avaient coulé du ciel dans l'épaisseur des bois. On traversa du clair, puis, au lieu de continuer sur Jumièges, mon ami tourna vers la gauche et, prenant un chemin de traverse, s'enfonça dans le taillis. Et bientôt, du sommet d'une grande côte, nous découvrions de nouveau la magnifique vallée de la Seine et le fleuve tortueux s'allongeant à nos pieds. Sur la droite, un tout petit bâtiment couvert d'ardoises et surmonté d'un clocher haut comme une ombrelle s'adossait contre une jolie maison aux persiennes vertes, toute vêtue de chèvrefeuille et de rosiers. Une grosse voix cria « V'là des amis !» et Mathieu parut sur le seuil. C'était un homme de 60 ans, maigre, portant la barbiche, et de longues moustaches blanches. Mon compagnon lui serra la main, me présenta, et Mathieu nous fit entrer dans une fraîche cuisine qui lui servait aussi de salle. Il disait « Moi, monsieur, je n'ai pas d'appartement distingué. J'aime bien à ne point m'éloigner du fricot. Les casseroles, voyez-vous, ça tient compagnie. » Puis, se tournant vers mon ami, « Pourquoi venez-vous un jeudi? Vous savez bien que c'est jour de consultation de ma patronne. Je peux pas sortir cet après-midi. » Et courant à la porte, il poussa un effroyable beuglement. « Mélie !» qui dut faire lever la tête aux matelots des navires qui descendaient ou remontaient le fleuve, là-bas, tout au fond de la creuse vallée. Mélie ne répondit point. Alors Mathieu cligna de l'œil avec malice. « Ah, n'est pas contente après moi, voyez-vous, parce qu'hier, je me suis trouvée dans les 90. » Mon voisin se mit à rire. « Dans les 90, Mathieu? Comment avez-vous fait ?» Mathieu répondit. « Je vais vous dire, je n'ai trouvé l'an dernier que 20 rasières de pommes d'abricot. Il n'y en a plus. Mais pour faire du cidre, il n'y a que ça. Donc j'en fis une pièce que je mis hier en Perse. Pour du nectar, c'est du nectar. Vous m'en direz des nouvelles. J'avais ici Polyte. Nous mettons à boire un coup, et puis encore un coup, sans se rassasier. On en boirait jusqu'à demain. Si bien que, de coup en coup, je me sens une fraîcheur dans l'estomac. Je dis à Polyte, si on buvait un verre de fine pour se réchauffer. Y consent. Mais cette fine, ça vous met le feu dans le corps, si bien qu'il a fallu revenir au cidre. Mais voilà que de fraîcheur en chaleur et de chaleur en fraîcheur, je m'aperçois que je suis dans les 90. Polyte était pas loin du mètre. La porte s'ouvrit. Mélie parut, et tout de suite avant de nous avoir dit bonjour. « Cré, cochon, vous aviez bien le mètre, tous les deux. » Alors Mathieu se fâcha. « Dis pas ça, Mélie, dis pas ça. J'ai jamais été au mètre. » On nous fit un déjeuner exquis devant la porte, sous deux tilleuls, à côté de la petite chapelle de Notre-Dame-du-Gros-Ventre et en face de l'immense paysage. Et Mathieu nous raconta, avec raillerie mêlée de crédulité inattendue, d'invraisemblables histoires de miracles. Nous avions bu beaucoup de cidre adorable, piquant et sucré, frais et grisant, qu'il préférait à tous les liquides. Et nous fumions nos pipes, à cheval sur nos chaises, quand deux bonnes femmes se présentèrent. Elles étaient vieilles, sèches, courbées. Après avoir salué, elles demandèrent Saint-Blanc. Mathieu cligna de l'œil vers nous et répondit « Je vais vous donner ça ». Et il disparut dans son bûcher. Il y resta bien 5 minutes. Puis il revint avec une figure consternée. Il levait les bras. « Je sais pas où ce qu'il est, je le trouve plus. Je suis pourtant sûr que je l'avais. » Alors, faisant de ses mains un porte-voix, il mugit de nouveau. « Mélie !» Du fond de la cour, sa femme répondit « Kéka !» Où est-ce qu'il est, Saint-Blanc? Je le trouve plus dans le bûcher. » Alors Mélie jeta cette explication. « C'est-il pas celui que t'as pris l'autre semaine pour boucher le trou de la cabine à lapin ?» Mathieu tressaillit. « Nom d'un tonnerre, ça se peut bien. » Alors il dit aux femmes. « Suivez-moi. » Elles suivirent. Nous en fîmes autant, malades de rire étouffés. En effet, Saint-Blanc, piqué en terre comme un simple pieu maculé de boue et d'ordure, servait d'angle à la cabine à lapin. Dès qu'elles l'aperçurent, les deux bonnes femmes tombèrent à genoux, se signèrent et se mirent à murmurer des orémus. Mais Mathieu se précipita. « Attendez, vous voilà dans la crotte. Je vais vous donner une botte de paille. » Il alla chercher la paille et leur en fit un prie-dieu. Puis, considérant son sein fangeux, et craignant sans doute un discrédit pour son commerce, il ajouta « Je vais vous le débrouiller un brin. » Il prit un seau d'eau, une brosse, et se mit à laver vigoureusement le bonhomme de bois pendant que les deux vieilles priaient toujours. Puis, quand il eut fini, il ajouta « Maintenant, il n'y a plus de mal. » Et il nous ramena boire un coup. Comme il portait le verre à sa bouche, il s'arrêta, et d'un air un peu confus « C'est égal. » Quand j'ai mis Saint-Blanc au lapin, je croyais bien qu'il ne ferait plus d'argent. Il y avait 2 ans qu'on ne le demandait plus. Mais les saints, voyez-vous, ça ne passe jamais. » Il but et reprit. Allons, buvons encore un coup. Avec des amis, il ne faut pas y aller à moins de 50. Et je n'en somme seulement pas à 38.